leadership that teaches you to depend upon another race is a leadership that will enslave you. They gave leadership to our foreparents, and that leadership made them slaves.
Sir.
But we have decided to find a leadership of our own to make ourselves free men.
Sir.
Our great scholars haven't passed through the colleges or universities, have thrown away the blessed record. Babylon did it. Assyria did it. France under Napoleon did it. Germany under Prince von Bismarck did it. England under America under George Washington did it. Africa with 400 million black people can do it. If you cannot do it, if you are not prepared to do it, then you will die.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire arrachée au temps, mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine spéciale consacrée par France Culture aux mémoires de l'esclavage, nous nous intéresserons à la situation dans les Antilles britanniques. Les Bahamas, la Barbade, la Jamaïque, Trinidad et Tobago ou les îles Vierges, les possessions de la couronne dans les Caraïbes avaient elles aussi eu recours à la traite négrière pour exploiter leurs plantations de tabac, de café, de coton, mais surtout de canne à sucre. Entre 1662 et 1809, plus de 3 millions d'esclaves y débarqueraient avant qu'en 1833, Londres ne mette un terme à cette pratique. Conditions de vie et de labeur, révolte et marronnage, des champs de travail au Calypso jusqu'à la survivance de cette mémoire par Marcus Garvey ou le mouvement Rasta. Aujourd'hui, une histoire de l'esclavage dans les Antilles britanniques. Chaque 26 décembre et 1er janvier, en Jamaïque, aux Bahamas et ailleurs, dans les Antilles britanniques, c'est jour de fête. Les rues s'emplissent de foules dansantes qui défilent, arborant costumes colorés et masques aussi imposants qu'étranges. À Nassau, par exemple, aux Bahamas, des dizaines de milliers de personnes déferlent sur Bay Street vers 1h du matin. Au rythme des clochettes, des sifflets, des tambours et des cuivres jusqu'au lever du jour. On appelle ce carnaval le Junkanoo. Il fait la joie des touristes occidentaux venus profiter de quelques jours de congé. Les origines du Junkanoo sont controversées, mais l'une des interprétations voudrait que son nom renvoie à un certain John Canoe. John Canoe, un roi des Ahanta, de l'ethnie Akan, originaire de l'actuel Ghana, et qui au XVIIIe siècle avait conduit une lutte féroce contre des marchands d'esclaves européens. Finalement défait, après 2 décennies de combat, réduit en esclavage et envoyé aux Bahamas, ses compatriotes avaient ensuite obtenu de leur maître anglais le droit, 3 jours durant, d'être exemptés de labeur dans les plantations et de pouvoir célébrer, au moment de Noël, une éphémère liberté. 3 siècles plus tard, le Junkanoo a perdu sa fonction d'exutoire, mais il perpétue le souvenir de la culture d'une partie des esclaves jadis convoyés d'Afrique, leur goût pour la musique et la danse, leur esprit de résistance et leurs croyances religieuses qui s'exprimaient parfois au cœur de la nuit, une fois leurs maîtres endormis dans leur lit douillet, lesquels maîtres ne devinaient pas à quelle gémonie les vouaient ces assemblées nocturnes.
Come Zambala, the wings of a three-toed frog. Take weeds from the deepest heart of the sea. Bring the trumpet from heaven and the fire from hell. Then nobody can break the spell. Oh, Dambala, come Dambala. Oh, Dambala, come Dambala. On the seventh day, God will appear. On the seventh night, Satan will be there. On the seventh day, God will appear. On the seventh night,
les esclavagistes, vous saurez un jour ce que c'est que d'être un esclave, esclave dans votre cœur, esclave dans votre tête, dans votre âme. jusque dans votre tombe. Vous n'irez ni au paradis ni en enfer, vous resterez dans votre tombe et sa puanteur. 1970, le trop méconnu chanteur Tony McKay et son groupe Exuma, du nom de l'un des archipels des Bahamas qu'il avait vu naître pour ce Odambala, divinité du vaudou local, serpent céleste ayant façonné le cosmos à l'aide de son corps et garant de l'équilibre de l'univers. La plupart des îles des Caraïbes avaient été abordées par Christophe Colomb au cours de ses quatre voyages successifs entre 1492 et 1504. Les Bahamas, Cuba et Haïti lors du premier, la Dominique, la Guadeloupe, Porto Rico, la Jamaïque et certaines des îles Vierges lors du deuxième, Grenade, Trinidad et Tobago lors du troisième. Mais hormis Cuba ou Porto Rico, les Espagnols se désintéressent assez vite des Antilles. Pas assez de matières précieuses et surtout trop de résistance de la part des autochtones, ceux qu'on appelle les Caraïbes, des Amérindiens installés sur place un peu plus tôt. Cela avait laissé la place aux autres puissances coloniales pour s'approprier certaines îles ou zones côtières. En 1635, les Français s'emparent de la Guadeloupe, de la Dominique, de la Martinique. Plus tard, ils obtiendront des Espagnols Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Quant aux Britanniques, ils font main basse sur les Bermudes en 1612, puis la Barbade, Saint-Christophe, Antigua et Montserrat, les Bahamas et finalement en 1655, la Jamaïque. Pour travailler dans les plantations de café et de coton qu'ils y développent, les Anglais font d'abord appel à des esclaves blancs, des condamnés, des prisonniers britanniques qui servent de domestiques ou d'ouvriers agricoles. Mais leur constitution fragile les rend peu productifs. Surnommés les Red Legs, les jambes rouges, à cause de la couleur de leurs membres meurtris, ils finissent par se spécialiser dans la pêche et l'agriculture de subsistance. C'est alors que les colons découvrent la canne à sucre, bien plus rentable, mais aussi bien plus énergivore. Il faut des bras, plus de bras et des bras puissants. Alors que les Caraïbes succombent aux maladies contagieuses importées par les colons, il avait fallu s'en remettre à la traite.
I was caught and I was brought here from Africa. I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dug on my knees. And weeks before we crossed the seas to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work. A good lot, no pay. I toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm done. Thank you.
Somebody said, free the bloody slaves. I was then put out on the street. I got no food, I got no clothes, got no place to sleep. I had no education, no particular ambition. This I cannot conceive. Forgot my native culture, I say I live like a vulture. From the white boss I had to steal. He made me work, oh yes I work.
Oh Lord, no pay, yeah, toil and toil and I toil and toil so hard.
Je suis un esclave venu d'un pays lointain, j'ai été attrapé et amené ici d'Afrique, forcé de rester à genoux pendant des semaines avant de traverser les mers pour atteindre les Antilles. Plusieurs fois, j'ai voulu m'enfuir, mais l'esclavagiste anglais était là, avec son arme prête à tirer et à me tuer. Aujourd'hui encore, je prie et j'étudie la meilleure manière de m'enfuir, mais à chaque fois, je repense au fouet et au chien, et mon corps commence à trembler. The Slave par Mighty Sparrow, originaire de Trinidad et Tobago, enregistré en 1962. Lorsque les besoins de main-d'œuvre exigent de trouver plus de bras, les Anglais s'intéressent donc aux esclaves convoyés d'Afrique depuis des décennies déjà par les Espagnols et les Portugais. Et plus récemment, par les Hollandais qui ont fondé la Compagnie des Indes Orientales. Ce sont ces mêmes Hollandais qui, au début, fournissent aux Anglais la majorité de leurs captifs. Mais bientôt, les Anglais créent leur propre structure, comme la Royal African Company of England, fondée par des commerçants de Londres. Des membres de la famille royale créent ensuite la Compagnie du Sénégal. Le marché, très lucratif, attire des aristocrates, des commerçants de Bristol, mais surtout de Liverpool. Même le philosophe John Locke possède des parts. Des fortifications sont bâties sur les côtes du Sénégal, de la Gambie, du Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, de Guinée ou du Congo. Y transitent les esclaves troqués contre du tabac, des objets en fer, voire de l'eau de vie, à moins qu'ils ne soient simplement capturés par des intermédiaires, marchands africains ou européens. Les hommes, les femmes et les enfants jugés les plus vigoureux sont ensuite entassés par centaines, enchaînés à fond de cale des vaisseaux négriers qui prennent la direction des Antilles. Voyage de plusieurs semaines à travers l'Atlantique, ce que les Anglais appellent « the middle passage », le passage du milieu, pendant lequel on se protège du scorbut en croquant des fruits de gombo. Mais à l'arrivée, un quart des enchaînés y laisse la vie. Certains des survivants sont acheminés vers les États-Unis, les autres sont donc envoyés aux Antilles britanniques, comme à la Barbade, la première des colonies à se tourner vers la culture de la canne à sucre. La Barbade, où les esclaves agricoles obtiennent le droit de pouvoir chanter en travaillant. L'un de leurs airs, entendu un jour par un médecin, également secrétaire du gouverneur de l'île, sera par la suite retranscrit à la fin du XVIIIe, témoignage précieux de l'un des plus anciens des chants d'esclaves, dont les paroles racontent « Vu que Massa m'a acheté, il ne me tuera pas. Avant de me tuer, il préférera me revendre. Avant, je vivais sous le joug d'un homme mauvais, puis j'ai été conduit sur la côte pour être vendu. »
Massa baby won't kill a bee-o. Massa baby he won't kill a bee-o. Massa baby he won't kill a bee-o. For he kill me, he ship me regular.
Un chant d'esclaves de la Barbade vers 1770. Chaque matin, sauf les dimanches, ces esclaves quittent leur case sommaire où ils ont dormi sur de la paille dispersée à même le sol. Dehors, il fait souvent encore nuit, la maison des maîtres est noyée dans l'obscurité, à l'inverse du dortoir des surveillants où résonnent déjà les lugubres claquements des fouets. Direction les champs où ces esclaves travailleront jusqu'au soir. Entre les deux, ils s'épuisent sous un soleil de plomb, ils s'échinent dans les plantations de canne à sucre où ils sont en charge de tout le processus, depuis les semailles, la récolte jusqu'à l'extraction du jus, sa transformation en sucre ou en mélasse et la distillation du rhum. Les esclaves sont répartis selon leurs forces en trois groupes appelés des gangs. Ceux des deux premiers sont chargés au début de l'été de préparer les champs, de retourner la terre sans pelle à l'aide de seuls houx. Puis il faut planter, ajouter du fumier animal, le travail est exténuant. À 40 ans, on est déjà bon à être relégué dans le troisième gang avec les personnes âgées et les tout jeunes enfants à désherber les récoltes et nourrir les animaux. Une vie de souffrance et d'arbitraire, pas le droit de moufter, pas le droit de se plaindre, ainsi que le chantera Alec Cameron, originaire de Tortola, la plus grande des îles vierges britanniques, dans cette chanson traditionnelle.
My fair world has been his motion, and before he went away, he told me whenever you asked me a question, I must always answer no. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yes, no, yes. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yes, no. Tell me one thing, tell me truly. Tell me why you scorn me so. That whenever I ask you a question, you can always answer no. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yes, no. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yeah, no. As I was sitting in my garden, picking flowers that wake with you, that whenever I ask you a question, you can always answer no. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yes, no. No, sir, yes, ma'am. No, sir, yes, ma'am. No, yes, no.
Le chanteur Alec Cameron pour ce Spanish Merchants enregistré en 1985. Compte tenu de ces conditions de vie, la mortalité, on s'en doute, est très forte. On meurt de maladies, paludisme, fièvre jaune ou variole. On y succombe aussi d'épuisement, d'autant qu'on mange peu. Les maîtres distribuent de maigres rations pour la semaine, constituées d'aliments traditionnels africains importés, du gombo, du niébé, qu'on appelle black eyed peas en anglais, du poisson salé, des mangues, des haricots rouges ou un peu de riz. Ajoutez à cela quelques légumes ou fruits cultivés sur place, comme la papaye, l'igname, la goyave ou des galettes de manioc qui, avant d'être importées par les Européens en Afrique, venaient de l'Amazonie voisine. Alors évidemment, le climat permettrait pour certains végétaux des doubles récoltes, mais cela s'apprend et en attendant, on a faim. Quand on peut, on ruse et on soustrait au blanc un cochon ou une volaille, viande qu'on apprend à cuisiner discrètement, d'où l'invention du porc ou du poulet jerk, autrement dit cuit en marinade de manière à ne pas avoir allumé de feu dont la fumée nous trahirait. La natalité des esclaves est insuffisante, d'autant que parfois on divise les familles en revendant à une autre plantation le père ou la mère. Face à ce solde démographique négatif, il faut donc, pour maintenir à flot les forces de travail, importer sans cesse davantage de main-d'œuvre. Des esclaves qui bientôt deviennent plus nombreux que les blancs qui les exploitent, ainsi dans la plus vaste des colonies britanniques des Caraïbes, la Jamaïque. La Jamaïque, où Christophe Colomb avait accosté lors de son premier voyage et qui longtemps n'avait pas réellement été colonisée, tellement qu'en 1655, elle était passée sous la coupe des troupes anglaises qui avaient importé massivement des esclaves pour trimer dans les plantations de canne à sucre. À la tête de ces plantations, des centaines de planteurs, parfois membres de l'élite britannique, parfois descendants des premiers militaires. Parmi eux, un certain Edward Long. Il est né sur place, il était reparti à Londres faire des études avant de revenir et de demeurer en Jamaïque de 1757 à 69. Il y est juge au tribunal local, brièvement président de l'Assemblée, mais surtout c'est un gros planteur et gros propriétaire d'esclaves. En 1769, il reviendra finalement à Londres pour des raisons de santé, où il publiera son « Histoire de la Jamaïque », où l'on peut lire certaines des descriptions les plus virulentes et plus racistes, soutenant que les nègres américains se caractérisent par les mêmes manières bestiales, bêtises et vices qui avilissent leurs frères d'Afrique, qu'ils incarnent toutes les turpitudes et les imperfections humaines, qu'ils sont incapables de rédemption et ne démontrent aucune capacité inventive ni appréciation des arts. Un racisme certes ordinaire chez les Européens, mais qu'Edward Long pousse à l'extrême. Il faut dire que, n'en déplaise aux planteurs, les esclaves n'acceptent pas toujours docilement leur sort et bientôt éclateront des révoltes. France Culture, Jukebox, aujourd'hui les Antilles britanniques, l'esclavage sous les tropiques.
400 years.
Oh,
Bob Marley and the Wailers, 400 years, 400 ans d'esclavage, enregistré à Kingston et paru en 1973, soit tout pile 300 ans après le premier sursaut des esclaves jamaïcains.
Rasta said to people, Babylon, you don't know what to say. Rasta said to people, Babylon, you don't know what to do. King Rasta, come now soon.
Les révoltes d'esclaves qui sont aussi vieilles que l'esclavage lui-même. La première recensée dans le coin avait eu lieu dès 1503 à Cuba. En Jamaïque, lorsque les Anglais avaient délogé les Espagnols, ces derniers avaient libéré leurs esclaves africains et indiens qui s'étaient ensuite cachés dans les montagnes. Quelques années plus tard, en 1673, les Britanniques y affrontent donc leur première insurrection. Il faut dire que la Jamaïque y abritait, selon la légende, les esclaves les plus indisciplinés. La Jamaïque, où, comme dans le reste des Antilles, malgré la mortalité qui les frappe, le nombre de ces esclaves finit par dépasser de beaucoup celui des colons chargés de les surveiller. Impossible dès lors d'empêcher les évasions, notamment la nuit. En 1673, donc, 200 esclaves d'une paroisse du nord de l'île prennent la fuite et créent la première bande de Maroons, de marrons en français, de Cimarrones en espagnol, soit des esclaves en fuite. Ils se cachent dans les collines du centre de l'île pour y former une communauté autosuffisante. Ils sont rejoints quelques années plus tard par 400 autres. Retranchés dans leurs montagnes, ces marrons organisent parfois des raids dans les plantations afin d'y enlever des femmes pour pouvoir se reproduire ou d'y voler des vivres. Le mouvement prend de l'ampleur, les révoltes se multiplient. En 1728, les Britanniques nomment un nouveau gouverneur et envoient des troupes pour mater le mouvement. C'est le début de ce qu'on appelle la première guerre des marrons. Adoptant des techniques de guérilla, les insurgés harcèlent les Britanniques. À leur tête, on trouve notamment une certaine Nani, une femme née au Ghana, dans l'ethnie des Akans, et qui, selon la légende, était guidée dans ses luttes par l'esprit de ses ancêtres.
Dans ses préparatifs, Nani plaçait un bouclier invisible autour de chaque combattant. C'était donc difficile pour les balles, les baïonnettes et les épées de les tuer. Beaucoup de gens se posaient la question, comment se fait-il que ces gens peu nombreux et aussi mal équipés aient pu vaincre une grande armée telle que les forces britanniques?
La guerre des marrons dure pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'en 1739, les Britanniques concèdent aux insurgés une zone autonome. En échange, il leur est demandé d'arrêter d'héberger de nouveaux esclaves en fuite, mais au contraire de participer à leur capture. C'est notamment dans ces villages marrons que survivront beaucoup des traditions culturelles et musicales de ces esclaves venus d'Afrique de l'Ouest, notamment des Ashanti, comme lors de cérémonies religieuses et spirituelles, où, sur fond de tambour, on faisait appel aux esprits des ancêtres défunts, lesquels prenaient possession des vivants, et où les rythmes, les chants et les danses conduisaient à des états de transe. Illustration avec ce chubby, un chant traditionnel interprété bien plus tard par le duo jamaïcain des Mellow Cats, accompagné par le maître des percussions, Count aussi.
I do love no one.
Chubby, The Mellowcats and Count aussi. Les marronnages, les fuites d'esclaves qui, toutefois, n'enfleuront pas partout de la même manière. Jean Cruzol, économiste et professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, ici en 2019, au micro de Tiphaine de Roquigny sur France Culture.
À la Jamaïque, vous avez eu des bandes de nègres marrons qui se sont mises en place et qu'on n'en a jamais pu réduire. À ce jour, vous avez encore une région de la Jamaïque qui s'appelle les Cockpit Countries ou les Maroonlands, qui sont une zone de plusieurs villages où vous avez les descendants des nègres marrons qui avaient si bien résisté à la violence des colons et de la milice coloniale qu'ils ont obtenu un accord avec le gouvernement britannique à l'époque qui leur a laissé une zone en 1739, cette zone dont je viens de parler, Maroonlands, où il y avait donc une sorte de communauté indépendante de marrons qui vivaient. Par contre, si vous prenez le cas de la Barbade, l'île était une plantation, c'était que de la canne, eh bien, il n'y a eu de nègres marrons à la Barbade que juste à la fin du XVIIe siècle. Ensuite, ils ont été complètement éradiqués et donc il n'y a pas eu de nègres marrons pendant tout le 19e siècle. Et évidemment, la présence de nègres marrons est un élément qui déstabilise la société esclavagiste. Et donc, on avait à Barbade une société beaucoup plus efficace en tant que société esclavagiste pour produire du sucre que ce n'était le cas à la Jamaïque.
Land of flying fish and potatoes, yes, Barbados, Barbados. The land of flying fish and potatoes, what a beautiful island. Tourists go there to spend their vacation. Yes, I just go there annually because I love the people's hospitality. But let me tell her, Liliana, Liliana, Lina, please divorce your husband. If I've got to swim or sell my clothes, I'm coming back to the island of Barbados. In Trinidad, the girls may get fretful and say the Lord invaders ungrateful, but when I had plenty money, I spend it with them extravagantly. Homes for them I furnish. Now I am suffering from financial paralysis. What they did to me is a mortal sin. But it's Barbadian Lillian who took me in. Well, let me tell her, Lillian, Lillian, darling, please divorce your husband. If I've got to swim or sell my clothes, I'm coming back to the island of Barbados. The Bajan girls are so accommodating, fascinating, and don't talk about romancing. When I wake in the morning, the trolley to my bed is breakfast they serve in. Flying fish for dinner, turkey and lamb, and sometimes lobster. What made Lillian go staring mad when I told her that I'm going back to Trinidad? But let me tell her, Lillian, Lillian, baby, please divorce your husband. If I've got to swim or sell my clothes, I'm going back to the island of Barbados.
La Barbade, pays des poissons volants et de la pomme de terre. Quelle belle île. Les touristes vont y passer leurs vacances et moi j'y vais chaque année, tant j'aime l'hospitalité du peuple. 1955, le Trinidadien Lord Invader, l'une des grandes voix du calypso pour ce Barbados. La Barbade où en 1816 une révolte d'esclaves avait échoué. Mais dans le même temps, d'autres parviennent à abolir l'esclavage comme en Haïti ou en République dominicaine. Alors ailleurs, on s'accroche à l'espoir, notamment grâce à la musique, les chansons de travail qu'on entonne dans les plantations pour se donner du courage, ou bien celles qui résonnent les dimanches et les jours de fête lorsque les esclaves sont dispensés de labeur. Les hommes abandonnent alors leurs caleçons de grosse toile pour d'autres plus colorés. Les femmes se tressent les cheveux et revêtent chemises et jupes blanches, colliers et bracelets. Tous se retrouvent pour danser et chanter. Un témoin raconte, ils font des assemblées où ils dansent à leur mode et font du tambourin ou de la calebasse avec autant d'allégresse que s'ils étaient les plus heureux gens du monde. Et puis il y a les festivités des défilés de Noël, les junk canoes qu'on évoquait en ouverture, lors desquels, au Belize, aux Bahamas, aux Bermudes ou en Jamaïque, ces esclaves se griment en maîtres ou bien en souverains britanniques lors de défilés dansants, ainsi que le rappelle ce junk canoe music enregistré à Trenchtown en 53 par le junk canoe group. Trinidad et Tobago, le carnaval annuel donne également lieu à des sortes de combats d'arts martiaux, les calendas, des joutes utilisant des bâtons de canne à sucre. S'y développent en marge d'autres joutes, vocales et musicales celles-ci, voyant s'affronter plusieurs chanteurs à coups de jeux de mots raffinés en anglais, ainsi comme de ce « Don't Break It, I Say » signé King Radio, enregistré à Trinidad en 1936.
Don't break it, I say. Don't break off me band in this island.
Don't break it, I say.
Not even me mother, me father, me sister, me brother.
Don't break it, I say.
Please remember me, Lion of Judah.
Don't break it, I say.
I am the growling tiger, high priest of me minor.
Don't break it, I say.
Mother, water, blood in the gutter.
Don't break it, I say.
I am humble, noble, and king of the jungle.
Don't break it, I say.
I am the science master, I was than Dracula.
Don't break it, I say.
If you break up my barn, I go live in the station.
Don't break it, I say.
I'm king of science, I'm master, the Lawrence.
Don't break it, I say.
Not power, little no mafo godato.
Don't break it, I say.
Not even Harvey Cooper, the famous cutouter.
Don't break it, I say.
In reality, it is real ferocity.
Don't break it, I say.
You must agree with me, or is that a mutiny?
Don't break it, I say.
If you break up me banana, go live in Carrera.
Don't break it, I say.
So please remember of King of Africa.
Don't break it, I say.
Mother, water, fire, brother.
Don't break it, I say.
Not even super major, the tyrant inspector.
Don't break it, I say.
In reality, it is real ferocity.
Don't break it, I say.
If they break up this band, it's a war and rebellion.
Don't break it, I say.
Trouble in the island, Mother Federation.
Don't break it, I say.
It will be havoc and destruction in this warlike competition.
Don't break it, I say.
Woi, mother, father, brother.
Don't break it, I say.
Not even Edwin Cooper, the famous cutouter.
Don't break it, I say.
I'm noble and humble, I stand impregnable.
Don't break it, I say.
Tiger, hold your hand and don't charge his firearm.
Don't break it, I say.
Oh, the line, the tiger, we master, me minor.
Don't break it, I say.
My hungry never cease with this angry beast.
Don't break it, I say.
Find out your hand, but I charge the firearm.
Don't break it, I say.
Be mother, blood, father, brother.
Don't break it, I say.
Radio the lion and the tiger singing in America.
Don't break it, I say.
mother, father, what am I, brother?
Don't break it, I say.
I am the radio, the tyrant, master, me minor.
Don't break it, I say.
Not even Sheila, Hila, or even Myra.
Don't break it, I say.
New York 1936, Don't Break It, I Say, enregistré par Norman Spann alias King Radio, est exemple de calypso, un genre dérivé des anciennes calenta des esclaves de Trinidad et qui peu à peu incarne la résistance et la critique de la domination, offrant aux esclaves un moyen dissimulé de se moquer de leur maître. Enregistré dès 1914, le genre du calypso se répandra ensuite aux États-Unis, qu'on songe aux Andrew Sisters et leur reprise de Rum and Coca-Cola, ou bien Dari Belafonte, d'origine martiniquaise et jamaïcaine. Parmi les représentants caribéens les plus illustres du calypso, il y a Mighty Sparrow ou Lord Invader, qu'on entendait plus tôt, mais aussi Lord Kitchener, qui fera partie des 5000 Antillais britanniques qui choisiront dans les années 50 d'émigrer à Londres, sans pour autant oublier leur passé.
It's a shame, it's unfair, but what can you do? The color of your skin makes it hard for you. You can tour the world, you still will get no place. Every door is shut in your face. So boys, if you brown, they say you can stick around. If you white, well everything's alright. But if your skin is dark, no use you try. You've got to suffer until you die.
Tandis que le commerce des esclaves avait atteint son apogée dans les années 1780, de plus en plus de voix s'élevaient alors pour dénoncer son immoralité et sa brutalité. Dès 1776, la Chambre des communes avait débattu d'une motion pointant la traite comme contraire aux lois de Dieu et aux droits des hommes. Une pétition est examinée par le Parlement en 1783, appuyée par le chef suprême de la Royal Navy. En 1807, le Parlement britannique interdit le transport par bateau de nouveaux esclaves entre l'Afrique et les colonies anglaises. Les années suivantes, les abolitionnistes gagnent en audience. En 1833, le gouvernement reçoit 5000 pétitions réunissant plus d'1,5 million de signatures. Un consensus finit par se dégager et le 8 août, l'Abolition Bill est voté par le Parlement puis confirmé par le roi. Cette loi comporte une clause d'indemnisation des propriétaires, 20 millions de livres sterling qui seront payés par les contribuables britanniques. Il s'agit de ne pas provoquer de choc économique trop brutal pour les planteurs. L'abolition est donc graduelle, 4 ans pour les domestiques, 6 pour les esclaves des plantations, mais finalement le système est aboli dans son ensemble dès 1838. Mais la fin de l'esclavage ne signifie pas la fin de l'exploitation coloniale. Désormais embauchés et rémunérés dans les plantations, on entrave les possibilités des anciens esclaves de pouvoir cultiver pour eux-mêmes en inventant de nouvelles règles, freinant leur possibilité de pouvoir louer ou d'acheter leurs propres terres. Symbole de la persistance de cette oppression, le soulèvement en 1865 des anciens esclaves de la Jamaïque à Morant's Bay. Soulèvement dont la répression aveugle par les autorités coloniales britanniques fera près de 1000 morts et perpétuera encore le souvenir de cette page honteuse. La répression de la révolte de Morant Bay qui inspirera par la suite les mouvements sociaux qui conduiront à l'indépendance de la Jamaïque en 1962. Avant cela, elle sera notamment reprise par le militant Marcus Garvey, né à la Jamaïque, puis qui, émigré aux États-Unis, s'était investi dans le mouvement d'émancipation des Noirs. Ne croyant pas que les Afro-Américains pourraient vivre libres et respectés hors d'Afrique, il voulait unifier ces derniers et réclamer le droit au rapatriement en Afrique, la terre promise, selon une interprétation de la Bible. Pour ce faire, Marcus Garvey avait créé même une compagnie de paquebots, la Black Star Line, en 1919. Ce thème du retour en Afrique sera ensuite repris par les chanteurs de calypso, comme le Jamaïcain Lord Invader, qui chante en ce moment ce « I'm going back to Africa ». Puis, sur fond de l'essor des rastas jamaïcains, viendrait le temps des musiciens du reggae. On se quitte pour finir sur un titre plus récent, enregistré en 95 par Mighty Shadow, originaire de Trinidad, dans le style de la soca, cette calypso modernisée. Voici « Poverty is Hell ». Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, une histoire de l'esclavage dans les Antilles britanniques. Merci pour leur préparation à Lily Cornert pour ses notes historiques, à Pierre Plantin pour la documentation musicale et à Hervé Evano à l'INA. Jukebox se réécoute sur le site de France Culture où vous retrouvez la liste et les références des morceaux et des archives diffusées, une bibliographie et la possibilité de nous écrire pour le téléchargement. On a depuis quelque temps quelques problèmes avec iTunes, préférez donc l'application de Radio France. À la technique, c'était Clara Galivelle et Charles Gargasson. À la réalisation, merci à tous deux, au micro à Maurice Chardot. Et à dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
France Culture. L'esprit d'ouverture.